bienvenue dans votre émission Catalyse sur Fréquence Mistral que vous écoutez sur 99.3 FM. Ce soir, je reçois Thomas de Muvida.
C'est ça, c'est bonsoir. Ça.
Alors, on va peut-être commencer par te demander, qu'est-ce que ça veut dire Muvida?
Ah, qu'est-ce que ça veut dire Muvida? Alors Muvida, ça veut dire musique, vidéo, art. Je cherchais quelque chose qui regroupe la musique, qui est donc la partie enregistrement, tout ça, et la vidéo, qui est aussi une des parties des activités de Muvida. Et ça sonnait pas mal, et puis c'est évidemment une référence, un hommage aussi à la Movida, le courant culturel espagnol post-franquiste, voilà, qu'on connaît aussi notamment dans le cinéma.
Ok. Voilà. Alors je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. La musique, ça te vient d'où ?
Ouf, la musique, ça me vient d'il y a très longtemps. Mes parents me racontent souvent que quand j'étais tout petit, j'avais peut-être 2-3 ans, j'avais un petit tourne-disque, parce que c'était années 80. Donc
un manche-disque ?
Voilà, ouais, un manche-disque. Alors je crois qu'on le posait dessus, on mettait la... Enfin, je ne me rappelle plus la tête qu'il avait, mais j'avais des vinyles de Gold. Tu vois, ce groupe Gold ?
Ok.
Ville ouais. de Lumière, tout ça. Ouais. Et apparemment, je passais ma journée à écouter Gold en boucle sur les petits vinyles. Donc ça a commencé très tôt. Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui écoutent de la musique, donc ça m'a aussi éduqué les oreilles. Mmh. La première vraie passion dont je me rappelle, c'était, je devais avoir peut-être entre 7 et 8, 9 ans, c'était Michael Jackson. Quand j'étais gamin, j'adorais ça. C'était l'époque Bad, Dangerous, ouais. Tout ça, vraiment c'était la grande période. Mmh. Et grâce à Michael Jackson, j'ai découvert un guitariste qui s'appelle Slash, guitariste des Guns N' Roses, qui jouait sur un morceau de Michael Jackson. Mmh. Et quand j'ai vu Slash jouer, faire ses solos et tout, je me suis dit, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. C'est ça la mission, c'est ça que je veux faire. Donc ça a commencé comme ça.
Et donc du coup, tu as enchaîné par apprendre un instrument ?
C'est ça, j'ai commencé la guitare. Alors j'ai fait une demi-année de conservatoire à Manosque. Je devais avoir 10 ans, je pense. Donc en guitare classique. Alors c'était pas du tout ce que je voulais faire, donc ça m'a pas plu des masses. Le prof était un espèce de psychopathe. Il a fini par se faire licencier. Ça a été vraiment, voilà, le genre d'expérience qui aurait pu traumatiser plus d'un jeune apprenti musicien. Mais en fait, donc du coup, j'ai arrêté en cours d'année et j'ai un copain, un de mes vieux amis, la Brice, qui prenait des cours à la MJC, qui m'a dit mais tu devrais venir à la MJC, il y a un super prof et on fait des trucs actuels, donc Nirvana, Red Hot, des trucs comme ça. Et malgré le fait que j'avais arrêté le conservatoire, je lâchais pas la guitare, j'avais quand même envie de jouer et je jouais quand même comme ça pour moi en galérant parce que je comprenais pas comment ça marchait exactement et tout ça. Et j'ai mis un pied à la MJC et donc grâce à Pierre-Olivier qui était ce prof de l'époque, j'ai fait toutes mes années collège, lycée là-bas à prendre des cours et puis à monter mes premiers groupes, à apprendre l'instrument, etc. quoi.
Donc là, du coup, c'était vraiment apprendre l'instrument.
Vraiment,
ouais. Tu n'as pas eu toute la culture papier, on va dire.
Alors, je l'ai eu un petit peu après. Donc, j'ai appris vraiment la guitare pour la guitare, donc la guitare musique actuelle, en fait. Donc, sans le solfège, tout ça. Mais quand même avec les tablatures et quand même avec surtout des notions des accords, des gammes, des choses quand même assez basiques comme ça. Et plus tard, après, je devais avoir 26, 27 ans, j'ai appris le violoncelle au conservatoire. Et là, ça m'a permis de rationaliser un peu toute la partie théorique, la partie solfège, etc., en plus d'apprendre l'instrument. Et alors, j'ai pas eu le temps d'aller super loin. J'ai fait 3-4 ans vraiment intenses de violoncelle, ce qui me permet de continuer à en jouer maintenant. Mais dans la partie théorie musicale, j'ai pas eu le temps d'aller ultra loin non plus. Donc, par exemple, je suis pas lecteur à vue de partition, tu vois.
D'accord. Mais par contre, qu'est-ce qui t'a amené au violoncelle ? Depuis la guitare
Je sais pas trop dire. En fait, c'est un instrument dont le son m'a toujours parlé. La tessiture, ce que ça dégage comme sensation quand on l'entend. Et quand j'étais jeune adulte ou ado, tout ça, j'écoutais beaucoup de métal. Et j'ai eu toute une période où j'étais vraiment beaucoup dans le métal. J'en écoute toujours beaucoup, d'ailleurs. Et le métal a harmoniquement beaucoup de ponts avec la musique classique. Donc du coup, durant ces périodes-là, j'écoutais aussi Beethoven, Schubert, Mozart, tout ça. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien essayer de mélanger un peu les deux, d'intégrer les deux, et surtout de voir comment ça fonctionne, cette autre partie du monde musical, en fait. Moi, je connaissais la partie qui venait du rock, Donc du blues originellement, donc c'est quelque chose de, enfin tu connais, c'est assez carré, des grilles, tout ça, des accords. Mais la partie musique classique, elle est totalement différente, c'est un autre monde en fait. Et donc j'étais curieux de voir comment ça marchait. Donc j'ai commencé moi sur mes projets à composer des choses pour violon, violoncelle, etc. Mais j'étais incapable d'écrire les partitions. Donc je faisais les maquettes et je demandais à des gens qui savaient faire d'écrire les partitions.
Okay.
Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Marcel, qui était le prof de violoncelle du conservatoire, qui a accepté de jouer sur un de mes albums. Et je lui ai demandé, après cet enregistrement, s'il était d'accord pour m'apprendre le violoncelle. Et il m'a dit, bah, banco, j'ai de la place, si tu veux, tu viens. Et puis c'est parti.
Donc et ça veut dire que tu as travaillé sur tes albums avant tes 26 ans ? Si je comprends bien.
Ah oui, 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 j'ai commencé. Ben en fait, très vite, j'étais curieux de savoir comment m'enregistrer.
Okay.
Et de trouver comment faire des maquettes, des démos, des trucs comme ça. Donc, je devais avoir peut-être 13, 14 ans. Et à l'époque, on avait des petits enregistreurs à cassette, 4 pistes. Tu vois ça, toi? Je sais pas si t'en as eu.
J'en ai pas eu, mais je vois.
Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, les cassettes qu'on avait donc dans les Walkman, là, étaient des cassettes stéréo à deux faces. Ce qui veut dire que tu avais 4 canaux dessus. Tu avais un LR pour chaque côté. Et du coup, ces petits enregistreurs utilisaient les 4 canaux pour que tu puisses y mixer 4 entrées différentes. Et donc, je passais un temps fou à m'amuser à superposer des guitares, à comprendre comment ça marchait, à tenter tel arrangement, tel machin. Et après, quand on a commencé à en avoir plusieurs, on pouvait aussi faire ce qu'on appelle des bounds. C'est-à-dire tu prends tes 4 pistes et tu les réduis sur une piste.
Okay.
Comme ça, ça t'en libère 3. Tu peux refaire tes arrangements et tu recommences, etc. Et c'est exactement, j'ai appris ça plus tard, mais c'est exactement ce que faisaient par exemple les Beatles dans les années 60. Un album comme Saint John Pepper, il est enregistré sur 4 pistes. Donc une fois qu'ils avaient fait leurs 4 pistes de base, il y avait, je sais pas, par exemple, batterie, guitare, percussion et un autre truc. Ils mettaient ça sur une seule piste. Ça, c'était fait. Ils pouvaient plus le retoucher après, donc c'était tel quel. Mais ça leur libérait 3 pistes après, derrière. Et donc ils enchaînaient comme ça les systèmes. Donc quelque part le métier d'ingé son, je l'ai un peu appris comme ça en fait, de manière voilà un peu empirique en expérimentant et après on a eu les ordinateurs et là du coup ça a ouvert tout un tas de possibilités qu'on n'avait pas avant avec les bandes en fait.
Ok, et donc du coup tes albums tu les as toujours autoproduits on va dire.
Alors je les ai auto-enregistrés. Mais après, il y en a plusieurs qui sont sortis sur des labels. Donc, une fois que ma partie à moi était finie, que l'album était terminé, c'était les labels qui s'en occupaient de les vendre, de les distribuer, etc. Mais oui, toute la partie production, par contre, artistique, oui, ça, c'était ma partie.
Ok. Et ça vient d'où, en fait? C'est par curiosité que petit à petit tu as appris les différents métiers, parce que c'est quand même différents métiers entre l'enregistrement, le mixage, le mastering. Il y a quand même un monde.
C'est par curiosité, c'est par envie en fait de pouvoir amener ma musique là où je voulais.
OK.
Tu vois, j'avais les idées, je savais comment je voulais à peu près que ça sonne, j'avais des albums de référence que j'adorais qui étaient un peu des sortes de modèles. Et c'était la question de se dire comment j'arrive à ce point-là. Donc j'ai besoin de ça, 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 ça. Et puis petit à petit, tu développes tes outils et puis tu améliores tes connaissances, tes compétences, ton oreille. Parce que la vie d'ingé son, c'est un travail perpétuel de l'oreille, en fait, d'écouter les choses, d'écouter les détails, de trouver comment agencer, comment équilibrer. Enfin, c'est un travail constant. Mais après, au bout d'un moment, on s'en rend plus vraiment compte parce que l'écoute analytique, elle est perpétuelle en fait. Ça fait partie de ma manière d'écouter la musique, quoi.
Ok. Donc, tu as commencé par tes propres projets en fait.
Ouais,
si je comprends.
C'est ça. Okay. Ouais.
Et après, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à ce métier ?
Alors, ça s'est fait que je commençais à avoir un petit peu de matériel et donc du coup de quoi enregistrer un peu correctement. Et c'est des groupes de copains qui ont commencé à me dire « Mais tu veux pas nous enregistrer notre petite maquette, notre petite démo, mixer ça, etc. » Et ça s'est développé comme ça. C'est-à-dire que les copains connaissaient des copains et puis finalement, ça a fait des gens que je connaissais pas qui ont commencé à me dire « Est-ce que tu veux pas enregistrer ça, mixer ça ?» Et à un moment, je me suis dit « ça me plaît cette partie-là du boulot. » Alors j'adore la partie musicien aussi, mais j'adore la partie ingé son. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de combiner les deux. Donc au sein du studio, ça me permettrait de faire un G-son, mais aussi d'intervenir en tant que musicien et d'aider les groupes à arranger, à composer à écrire leurs chansons. Et cette espèce de panel un peu large me plaisait bien, en fait, cette perspective-là.
Ok. Puis en plus, au sein du studio Movida, tu as aussi toute la partie vidéo, captation.
C'est ça. Ça s'est ajouté après. À la base, j'enregistrais des concerts en audio uniquement.
Mmh, okay.
Là, je parle de fin des années 2000, tu vois, avant les années 2010. Et à ce moment-là, l'essor d'Internet était énorme, en fait. Et du coup, les YouTube et compagnie commençaient vraiment à exploser. Et les groupes avaient une vraie demande de ça, d'avoir des images. Et donc, petit à petit, j'ai acheté des petites caméras mini DV. J'ai commencé à en acheter 2, 3, 4, à essayer de faire des multicams de caméras et à apprendre comment marchaient les logiciels pour faire ces montages-là. Et c'est une partie qui m'a bien intéressé, qui continue de m'intéresser, qui pour moi est un petit peu scindée en deux univers, parce qu'il y a la partie quand je fais des clips, par exemple, qui se rapproche plus du cinéma,
ouais.
Et qui est aussi une de mes autres passions dans la vie. Et la partie concert, ça se rapproche vraiment de la musique pour moi. C'est juste mettre des images sur la musique, donc tu fais en sorte que tes images aient un rythme, aient un cadrage et une lumière, etc., qui mettent en valeur la musique que proposent les musiciens. Et les deux parties m'intéressent, quoi, me plaisent.
Les deux parties pour la vidéo,
pour la
plus
vidéo.
Les parties...
Et en plus pour le son, voilà, c'est ça.
Pour le son, à la fois la partie musicien, puisque... Tu interviens sur certains albums, plus après toute la partie production, enregistrement, etc. D'accord.
Et ce qui est vachement satisfaisant sur certains projets, c'est que du coup, je rencontre un musicien ou une musicienne au tout début du projet.
Mmh.
Quelqu'un qui a une maquette très basique, un guitare-voix, mais qui n'est même pas tout à fait terminé, etc. Et on traverse toutes les phases ensemble. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup... Moi, ça m'apprend parce que chaque sensibilité est différente. Donc, chaque musicien m'apporte quelque chose de par sa sensibilité, de par sa perception de la musique. Et c'est humainement très enrichissant, ça, justement, de parcourir tout ça avec quelqu'un. Je vais faire la partie arrangement avec lui ou elle. Après, on va faire la partie vraiment technique d'enregistrement, donc comment faire sonner chaque instrument le mieux possible, etc. Après, moi, j'ai ma partie mixage. Donc là, c'est mon boulot à moi de faire sortir ça le mieux possible. Le mastering pour mettre tout ça aux normes de diffusion actuelles qu'on a de volume, de fréquence, de compression, etc. Et après, ça arrive aussi que je fasse le clip derrière ou que je fasse les concerts qui suivent en captation vidéo.
Okay, donc c'est un accompagnement.
C'est un accompagnement complet, en fait. Voilà, jusqu'à la fin, quoi.
Mm.
Et ça, c'est une des parties du boulot que j'aime vraiment beaucoup, ce côté-là, de pouvoir accompagner un artiste du début à la fin.
Ok. Eh bien, écoute, on va peut-être passer un petit peu pour écouter tes compositions,
ouais.
En particulier. Donc, tu nous as mis deux titres.
Mmh.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il y a « Contre le cycle ».
Ouais.
Qu'est-ce que tu...
Alors, ça va être deux titres très différents. Alors, « Contre le cycle », c'est un album qui s'appelle « Vehement Turnos ».
Ouais.
Qui est sorti en 2007. Alors c'est du métal extrême, donc plutôt black metal, c'est pour ceux qui connaissent un peu le style. Le morceau que j'ai choisi, c'est le début de l'album, donc il n'y a pas beaucoup de voix, je crois qu'il y en a vraiment très très peu. C'est plutôt instrumental. Et Vehementer, en fait, c'était vraiment... Il y a eu un moment, sorti de lycée, début des années fac, tout ça, j'étais vraiment super intéressé par toute cette scène black metal, notamment norvégienne. Des groupes comme Emperor, Satyricon, ça parlera peut-être à quelques auditeurs. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette musique, justement, c'était ce pont entre l'énergie et quelque part la violence qu'apportait le métal et les harmonies de la musique classique. On retrouvait vraiment beaucoup de parallèles. Je me rappelle avoir écouté, par exemple, des symphonies de Beethoven avec certains moments dedans où je me disais, mais en fait, c'est du black. C'est juste que c'est joué par des violons, mais les harmonies, c'est les mêmes, quoi. Et voilà, moi, ça m'a intéressé dans ce projet-là d'essayer de développer ça, en fait, ce côté un peu néoclassique dans le black metal. Mais je voulais surtout pas le côté néoclassique pompeux un peu ringard que ça fait des fois quand tu rajoutes des cordes sur du rock où c'est pas toujours une franche réussite, donc voilà, je voulais qu'il y ait un côté un peu sombre, un peu peut-être austère, quoi, quelque part, qui m'a parlé. Donc avec François le batteur sur ce projet, on a travaillé sur ces morceaux pendant quelques années. Après, on les a enregistrés, je les ai mixés et on a démarché plusieurs labels. Et il y a un label français de métal qui s'appelle toujours Osmose Productions, qui était un des gros labels de métal extrême, qui avait des noms vraiment importants dans le métal, comme Immortal, Marduk, Dark Tranquility, des groupes comme ça, qui nous ont dit, bah, nous, on adore l'album, donc on aimerait le sortir sur le label. Ce qui s'est passé en 2007. Et donc ça, c'était mon premier... c'est pas mon premier album qui est sorti, parce qu'il y en avait un autre avant, mais j'y reviendrai après, parce que c'est l'autre projet. Mais en tout cas, c'est ma seule mon seul album métal qui est sorti... à ce jour et peut-être jamais, parce que du coup chanter comme je chante sur le reste de l'album, c'est-à-dire à crier, à m'égosiller la voix, à passer 40 balais, maintenant j'avoue que ça me motive un peu moins.
Ok.
Mais à l'époque, ça faisait vraiment partie d'un ensemble et c'est un projet qui m'a intéressé pendant ces années-là.
Ok. Bah, pour avoir reçu plusieurs artistes qui font du métal, ce qui est ressorti, voilà, c'est que c'est vraiment le métal, c'était l'énergie en fait.
Ah oui,
vraiment
bien sûr.
Un truc qu'il faut sortir.
Mais à la limite, l'énergie à la guitare, ça va, mais l'énergie à la voix,
ça peut être
il y a des chanteurs qui ont une super bonne technique et qui arrivent à pas se fatiguer, mais moi, il n'y avait pas vraiment de technique et du coup, c'est brut quoi. Donc ça faisait mal, c'était pénible. Et okay. Quand j'ai terminé l'album, je me suis dit, bon, ça c'est fait. J'avais d'autres maquettes pour faire un deuxième album et puis finalement le temps passant j'ai eu d'autres envies musicales donc du coup les maquettes sont restées dans l'ordi et voilà. C'est donc Vehement Ornos, c'est ça, c'est toute cette époque là.
Ok. Et le deuxième titre, c'est Under Maze Moon.
Voilà, alors ça c'est mon autre projet. Alors Under Maze Moon c'est un projet qui s'appelle Ainu Lindale, qui est totalement différent musicalement, mais vous allez voir il y a un vrai contraste entre les deux. Et Ainu Lindale, c'est un projet que j'ai depuis quasiment le tout début en fait de mon envie de faire de la guitare. C'est basé sur la guitare acoustique, donc c'est pas du tout métal, c'est beaucoup plus folk, c'est beaucoup plus doux comme musique. Et Ainu, c'est né en fait de cette passion pour la guitare classique et de ma passion pour Tolkien, que j'ai découvert dans les années lycée par Le Seigneur des Anneaux et puis après le Silmarillion et tout ça. Et j'ai adoré cet univers et je trouvais qu'il y avait un vrai parallèle qui se faisait entre les deux. La musique que j'aimais essayer de faire à la guitare me faisait penser à son univers et du coup ces mots me faisaient penser à la musique et je me suis dit je vais essayer de mélanger les deux. Et le tout premier album d'Ainu Lindale qui s'appelait The Lay of Leithian, c'est une adaptation d'une nouvelle du Silmarillion, donc un des bouquins de Tolkien. Donc c'est l'histoire de Lúthien et Beren, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une elfe et un humain qui tombent amoureux, il y a tout un tas de péripéties après. Pour ceux qui aiment la fantasy, je suis sûr qu'ils l'ont lu, et si vous l'avez pas lu, il faut le lire ce soir, c'est obligatoire. Et donc du coup, le premier album d'Ainu, c'est vraiment une adaptation telle quelle de la nouvelle en musique.
Ok.
Et après, Nevras, le deuxième album que j'ai fait en 2014, donc celui dont est issu Under Maze Moon, c'est des textes que j'ai écrits moi, qui font référence plus ou moins directement au monde de Tolkien. Mm-hmm. Des fois, c'est assez évident, des fois, ça l'est pas, parce que c'est juste inspiré du monde, mais c'est des événements qui n'ont pas eu lieu, etc. Et Under Maze Moon, c'est une espèce de fable que j'ai écrite, dont j'ai écrit le texte, qui me faisait penser à ces univers un peu elfiques, tolkieniens, tout ça, mais qui est pas un texte direct de Tolkien. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit moi. Et donc c'est un univers musical, vous allez voir, qui est très différent de Vehement.
On va découvrir ça.
Allez,
tout de suite.
putrid air. Against myself I fold, but then I saw your shining eyes lighting the woods around. I stood as still as timeless eyes. From my mouth came no sound.
Donc deux univers complètement complètement différents.
C'est vrai.
Et maintenant tu en es où musicalement en fait?
Alors sur mes projets perso,
ouais.
Alors V-Mentor non, c'était un peu voilà une autre histoire. Mes parents travaillent au Lindale, j'ai des démos dans les cartons depuis quelques années que je trouve pas le temps d'aboutir, mais il y aura sûrement un autre album. Un de ces jours. C'est un projet qui m'est tellement personnel en fait que ça fait un peu tout le temps partie de moi. Donc j'arrête pas d'emmagasiner des idées de mélodies, d'accords, de trucs comme ça. J'en ai des caisses dans mon téléphone ou sur l'ordi ou quoi. Et puis après au bout d'un moment je me dis bon allez là je m'y mets et je commence à trier et j'assemble un peu des idées. Il y a des fois des idées qui font quasiment une chanson entière parce qu'il y a déjà couplet, refrain, pont, etc. Et il y en a d'autres c'est vraiment que des tout petits bouts. Des fois c'est de 4 notes mais et à un moment, il faut se mettre au boulot, en fait. Il faut mettre tout ça sur la table et puis essayer d'agencer voilà, tout ce qu'on a. Et avec un peu de chance, ça va se faire dans les mois, années qui viennent, quoi.
Ok. Voilà. De toute façon, tu as tout ce qu'il faut à ta disposition.
Ah oui, ça va. Ouais. Ah, puis je connais de plus en plus de musiciens, donc du coup, c'est pratique aussi pour faire jouer les instruments dont je joue pas. Ouais. C'est très pratique. Ouais.
Ok. Et tu as d'autres projets musicaux ou c'est vraiment ton
Alors en termes de compo, j'ai que ça.
Ok.
Après, j'ai un projet. J'ai un groupe de reprise de rock avec des copains pour m'amuser. Dans lequel je fais guitare-voix, mais c'est vraiment un groupe d'amis avant tout, donc on se fait plaisir, on joue trois fois par an dans des bars, et puis voilà. On fait des choses qu'on aime, rock, new wave, punk, tout ce qui nous plaît là-dedans. Voilà, après, non, sinon, en projet vraiment perso, c'est le seul.
Ok.
Voilà. Après, je travaille pour les autres, du coup. J'aide les autres à faire leur musique.
Et alors, juste pour rester un peu sur ton univers de composition, si je comprends bien, c'est d'abord la mélodie qui sort, et après tu as des paroles ou
alors ça dépend des fois. Alors la plupart du temps, je fais d'abord la musique et après les paroles. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir une idée de texte ou d'avoir quelques phrases qui me plaisaient et d'essayer de mettre de créer de la musique par-dessus. Mais je suis quand même plutôt d'abord musique et après texte, parce que la musique va souvent m'évoquer quelque chose. Et du coup, je vais avoir envie d'écrire en fonction de ce que la musique propose, quoi.
D'accord.
Ouais, ça va être plus comme ça.
Et donc là, au niveau musique, comme tu nous l'as expliqué, tu accompagnes les artistes. Tu joues aussi pour eux,
ouais,
avec eux.
C'est ça. Alors, ça dépend des projets. Il y a des projets ou pas du tout, parce qu'il y a tous les musiciens qu'il faut et il n'y a pas besoin. Donc, je vais peut-être juste les aider à arranger. Après, c'est eux qui jouent. Et il y a des projets aussi où dans lesquels il y a des manques de musiciens. Et du coup, là, c'est là que je vais intervenir. Donc, je vais proposer de la guitare, de la basse, de la batterie. Voilà. Il y a plein de choses que je sais pas faire. Donc, c'est dans la limite de ce que je suis capable de faire. Mais par exemple, en ce moment, j'ai deux artistes avec qui je travaille au studio, qui sont des profils similaires, c'est-à-dire qu'ils ont leur compo, ils ont leur texte, ils ont leur mélodie, ils ont des trames de chansons à peu près construites. Et là, du coup, moi, j'interviens pour, par exemple, construire la section rythmique. Donc, je vais leur dire, voilà, tel type de batterie ou de percussion qu'on peut faire. Alors, si c'est des rythmes simples de batterie, par exemple, je peux les faire moi. On peut ajouter des percussions, des choses comme ça. Si c'est plus compliqué, je peux faire venir un batteur extérieur pour faire les prises. Et on va faire pareil avec la basse, on va faire pareil avec là où les guitares, des fois peut-être quelques synthés, des fois le violoncelle, la mandoline, enfin tous les instruments que j'ai au studio. Et en fonction de ce que eux ils espèrent avoir comme résultat, je les aide justement à atteindre ce résultat-là.
Ok. Donc en respectant la direction artistique.
Ah oui. Clairement, oui. Okay. Oui, moi je suis à leur service pur et dur, quoi. C'est vraiment, je suis un soldat là-dedans. C'est eux qui choisissent. Ah ouais, c'est eux qui choisissent. En fait, ça démarre toujours par une discussion. On démarre toujours en se disant où est-ce que tu veux emmener ça, et comment moi je peux t'aider à emmener ça. À emmener ça là où tu veux que ça aille. Si jamais, par exemple, c'est un univers musical que je maîtrise pas du tout, je vais tout de suite leur dire en fait non, je suis pas la bonne personne, ça va pas être bien. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui est dans ce domaine-là, en fait.
Ok.
Mais si ça tombe dans des univers que je connais ou que je pense pouvoir dans lesquels je pense pouvoir aider. Et ben là, on va définir un style, un univers, et puis on va se lancer là-dedans. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec Anthony au studio, et Anthony, il m'a poussé dans mes derniers retranchements en me faisant faire de la musique antillaise, tu vois, que je ne fais jamais. Mais il avait une maquette, et surtout, il avait des références à me faire écouter. Et on a construit une rythmique par rapport à ça, avec des percus, avec un petit peu de batterie. À la guitare aussi, j'ai essayé de trouver quelque chose de voilà qui faisait vraiment penser Caraïbes, tout ça. Et donc c'était sa vision à lui. Moi de moi-même, j'aurais jamais proposé ça. C'est une musique que je connais pas bien, que je maîtrise pas bien. Donc c'était sa vision et bon, j'ai réussi bon an mal an. Après c'est pas jouer comme quelqu'un qui a cette culture-là depuis tout le temps. Donc c'est un peu comme je peux. Je suis bien plus performant dans le rock et dans les musiques voilà que je maîtrise comme ça.
Alors quel type de musique dans lesquelles tu es à l'aise?
Alors moi je viens vraiment d'une culture rock en général, donc ça démarre avec les Beatles, Pink Floyd, Led Zepp, tous ces groupes là, jusqu'au rock plus extrême, metal, hard rock, tout ça c'est des musiques que je maîtrise bien. Après, j'écoute pas mal de folk aussi, donc c'est des univers que j'aime bien, avec des vrais instruments acoustiques, tout ça, ça me plaît. Musique classique aussi, du coup, du fait du violoncelle, ça va. Du coup, là-dedans, il y a aussi tout ce qui est tout ce qu'on va appeler pop ou variété ou voilà toutes ces musiques-là, quoi. C'est, ça peut aller des fois vers le côté folk, des fois vers le côté un peu jazzy, des fois vers ce côté-là. Ça c'est mes univers en général. Après, par exemple, je maîtrise pas le jazz. C'est un style musical que je connais pas bien, que je maîtrise pas bien. Donc je pourrais jamais aider dans ce sens-là. Quelqu'un qui vient me dire moi c'est jazz pur et dur, je vais tout de suite lui dire je suis pas la bonne personne. Ou alors tu sais exactement ce que tu veux et moi je fais juste un G son.
Ouais, voilà la prise de son
pour la partie son. Mais par contre je te préviens aussi que tu auras du coup un son de jazz fait par un mec qui a des oreilles plutôt de rock. Donc ce sera une esthétique musicale différente. Si ça t'intéresse on le fait. Mais si jamais tu veux quelque chose de plus de plus jazz pur,
qui sonne
plus puriste, il faut que tu ailles dans un studio. Tu vas voir Alain à l'ami, tu vois, Alain Solaire et Anthony, et eux ils te feront quelque chose de beaucoup plus ils ont cette culture là beaucoup plus que moi, quoi.
OK. Et alors j'ai vu, je crois que c'est sur ton Facebook, tu faisais une captation d'un trio, il me semble, de chanteuses.
Quatuor, elles étaient quatre.
Ouais. Quatre peut-être.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et là, comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que c'est vraiment de la polyphonie en fait.
Ouais. Alors là, Kaïma, elles avaient déjà tout qui était fait. Donc moi, j'étais uniquement ingé son et vidéaste là-dessus. Mm-hmm. Donc elles sont venues en me proposant. Alors elles voulaient faire un teaser. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de ça pour se vendre.
Bien sûr.
Donc faire écouter leur musique et mettre des images sur la musique. Mm-hmm. Donc cette formule de venir au studio faire le teaser, c'est assez pratique parce que du coup il y a tout sur place. J'ai tous mes micros, mes câbles, l'ordi et tout, et j'ai les lumières, les caméras, et donc ça nous permet de faire quelque chose d'efficace en relativement peu de temps. Et donc elles m'ont proposé leur projet, elles m'ont fait écouter les maquettes de voilà comment ça sonnait. J'ai tâtonné un peu pour trouver le bon équilibre au niveau des micros, comment j'allais placer ça, parce que je voulais pas avoir des micros de voix comme on a là pour parler, tu vois, trop près de la bouche. Parce que je voulais que dans les images, ça respire un peu, qu'elles soient pas collées au micro. Donc après plusieurs tests, on a trouvé un équilibre de son qui était pas mal. Et après, je place les lumières, je place les caméras, et puis on fait le multipiste vidéo, on fait le multicam comme ça. On enregistre en même temps le multipiste audio. Mmh. Après, je mixe le son, après je synchronise les caméras sur le son, après je fais mon montage, et puis elles finissent avec un teaser prêt à...
Voilà. Et parce que du coup, tu incrustes aussi des images un peu de making-of, on va dire.
Oui, alors ça dépend, c'est vraiment une question de choix. Il y a des artistes qui veulent ça, qui aiment bien ça. Donc elle me dit, là les filles elles m'ont dit, est-ce que tu peux nous prendre aussi un peu quand on se prépare, quand on se maquille, quand on s'installe, tout ça. Marianne, une chanteuse avec qui je bosse depuis longtemps aussi, une musicienne avec qui je bosse depuis longtemps, la dernière vidéo c'était pareil, elle voulait qu'on fasse le teaser, son teaser femme orchestre, parce qu'elle joue plein d'instruments en même temps dans le studio.
Okay.
Mais qui est aussi un petit peu des plans extérieurs. Donc en fait, on est allé en dehors du studio, la filmer en train d'arriver au studio avec une petite valise, tout ça, de s'installer, de câbler et tout. Pour donner un petit peu plus une petite valeur ajoutée à la vidéo, que ce soit pas juste en train de jouer. Mais après, il y en a par contre qui aiment bien quand c'est uniquement joué pour de bon, quoi. C'est du pur live et c'est tout, quoi. C'est ce qui se passe à ce moment-là.
C'est l'enregistrement du live, en fait.
Quel. C'est pas retouché, c'est pas refait derrière, c'est pas synchronisé sur un autre mix, etc. C'est vraiment en live tel quel devant les caméras, quoi.
Ok. Et toi, du coup, c'est toujours sur le... Tu pars d'une discussion pour arriver autant au niveau musical qu'au niveau vidéo.
Toujours.
À accompagner
l'artiste. Okay. Ouais, c'est vraiment mon but, c'est d'aider au mieux l'artiste, en fait. C'est vraiment ça. Après, peut-être que c'est parce que moi aussi, en tant qu'artiste, je sais que quand j'ai affaire à d'autres personnes pour ma musique, je sais à quel point notre musique nous est personnelle et elle nous est importante. Et du coup, quand on la confie à quelqu'un, ça a énormément de valeur. Et on veut que cette personne-là, elle respecte ça, en fait, ce don ou ce prêt qu'on lui fait. Et ça, c'est quelque chose. J'y attache beaucoup d'importance à ça. Quand un artiste vient me voir en me disant « j'aimerais bien que tu m'aides à réaliser ma musique », pour moi, c'est un vrai cadeau, en fait, de m'offrir cette opportunité-là. Donc, c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Donc, à chaque fois, on commence par discuter et j'essaye de voir si je peux réellement les aider. Okay. Et si c'est le cas, on se met d'accord sur la marche à suivre, sur le temps qu'on a pour faire ça en fonction du budget, etc. Et on avance, mais il y a toujours une discussion au début, c'est obligé.
Ok. Et du coup, après, ça marche comment ? C'est en temps studio, en journée
ouais,
de...
C'est ça, c'est vraiment une question de temps, en fait. Donc, voilà, moi, je facture au temps. Donc, le temps que tu passes au studio, ça va te coûter le temps que tu y passes, quoi. Donc, si jamais tu me dis, je veux un teaser, mais j'ai tant de budget, je vais te dire, ok, je pense que dans ce temps-là, on arrive à faire ça.
Ok.
Sinon, si tu me dis, je veux un beau teaser, qu'est-ce que toi, t'en penses ? Je vais te dire, je pense qu'il faudrait faire ça, 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 et du coup, on a tant de temps à y passer.
À y concentrer.
Mais il y a des fois, c'est assez facile parce que on a une matière assez claire et donc on sait où on va. Mmh. Mais quand tu te lances dans un album, par exemple, c'est une autre paire de manches parce que tu sais jamais le temps que ça va prendre, en fait. Donc souvent, on fait un estimatif et on se dit, ça va nous prendre entre tant de jours et tant de jours. Mmh. Donc il faut que toi, dans ton budget, tu prévois à peu près ça. Et puis au fur et à mesure, on va affiner. Parce que des fois, on met plus de temps que prévu. Des fois, ça va plus vite que prévu. Donc, c'est un peu compliqué de... Voilà,
bien sûr.
Et moi, j'essaye de, au maximum... Alors, c'est pas toujours faisable. Mais il y a un truc que j'aime pas dans la manière d'envisager les choses. C'est le côté... je te fais un forfait, ça va coûter tant. Si jamais j'y passe plus de temps, tant pis pour moi. Si jamais j'en passe moins, tant mieux pour moi. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté pas réglo là-dedans qui me plaît pas. Mm-hmm. Moi, je veux juste être payé pour ce que je fais, c'est tout, en fait. Mais c'est hors de question que je me fasse plus de sous sur un artiste. J'ai dit, je vais faire une journée sur ton mix et en fait, je passe 2 heures. Jamais de la vie, je lui ai facturé une journée en lui disant, en fait, si tu me dois quand même tout le mix, même si j'ai fait vite, tu vois.
Mm-hmm. Okay.
Donc, je trouve que c'est beaucoup plus juste pour tout le monde, en fait, tu vois, d'être payé autant, de dire, ça va prendre à peu près tant de temps et à la fin, je te dis ce qu'on a fait. Et c'est comme ça.
Donc, pour un artiste qui voudrait venir dans ton studio, qu'est-ce qu'il faut qu'il prépare, en fait ?
Alors, il a pas forcément à préparer exprès pour qu'on se rencontre, en fait. Il faut surtout qu'il envisage le besoin qu'il a. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a quelques petites maquettes, comme ça, vite fait, qui a composé quelques chansons et qui se dit, je me sens coincé, peut-être que là, c'est intéressant de venir me voir. Parce que rien qu'en discutant, on va peut-être ouvrir certaines portes et je vais lui proposer certaines choses. Et ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Des artistes qui viennent et qui sont dans ce cas-là, qui me disent, en fait, je suis un peu coincé. Parce que soit j'ai des textes et quelques mélodies, mais je sais pas en faire des chansons. Ou soit j'ai des chansons, mais je sais pas les arranger ou je sais pas les enregistrer. J'ai aucune idée de comment on arrive au résultat final pour pouvoir les diffuser sur les plateformes de stream et compagnie, en fait.
Ok.
Donc ça peut être à plein d'étapes différentes. C'est vraiment ça. Après, si l'artiste est vraiment encore en pleine phase de création et qu'il sent que c'est pas abouti, dans le sens où il se dit, je sens que moi, il faut que je passe encore du temps avec mes chansons, avec mon univers pour peaufiner ça. Ça veut dire que c'est trop tôt pour envisager le studio. Ou alors, ça veut dire que peut-être que je pourrais intervenir là uniquement en tant qu'arrangeur et lui donner un regard extérieur sur ses compos. En lui disant, tu vois, là, ta compo, par exemple, elle gagnerait peut-être à être jouée de cette manière-là, avec ce rythme-là, tout ça. Tu peux repartir travailler de ton côté et tu reviens dans quelques temps, une fois que c'est plus affiné, et là on fait de l'enregistrement pur et dur.
Ok.
Donc faut pas hésiter à me contacter, en fait, à n'importe quel moment. Et puis je vous dirai si je peux vous aider à faire quelque chose ou pas, quoi.
Mmh. Ok. Bon, du coup, on va peut-être écouter quelques titres que tu nous as amenés.
Ouais.
Alors je sais pas, y en a 4.
Dans
lequel j'en ai un qui s'appelle Please Let Me Live.
Allez, on commence par Avalon Fay alors. Alors Avalon, c'est le projet de Morgane que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans maintenant. Elle est revenue faire une session là il y a 2 jours, donc on se remémorait les vieux souvenirs. On se disait que ça faisait plus de 10 ans qu'on se connaissait maintenant.
Okay.
Et Morgane, elle est guitariste chanteuse. Et les premières fois qu'elle est venue voir au studio, je me rappelle, elle m'avait dit, alors j'ai des chansons, je joue de la guitare et je chantonne un peu, mais j'ai vraiment du mal, je trouve que j'ai pas une super voix, etc. Et on a fait quelques tests et je lui ai dit, mais ta voix, elle est nickel, en fait, c'est parfait, il y a rien à changer, t'as une très belle voix, un très beau timbre, il faut juste que tu gagnes en confiance, c'est tout.
Ouais,
c'est vraiment
c'est,
ça.
C'est souvent ça.
Ah c'est souvent ça, et puis être chanteur, c'est très difficile, on est très exposé, etc. Et donc Morgane, on a travaillé sur ses chansons, elle est guitariste, elle est arrangeuse aussi, donc elle met vraiment la main à la pâte. Donc en fonction des chansons, elle me fournit différentes matières. Des fois, c'est déjà quasiment tout fini. Okay. J'ai plus qu'à faire l'enregistrement de sa voix et le mixage, par exemple. Et d'autres fois, je lui propose des arrangements de guitare, des trucs comme ça. Maintenant, de plus en plus, les années passant, elle m'amène des choses qui sont déjà quasiment terminées, musicalement. Et nous, on travaille ses voix ensemble. On aime vraiment bien bosser sa voix tous les deux. Donc, elle vient au studio et on travaille sa voix. Mmh. On écrit des parties ensemble. Je lui propose des arrangements, des doublages, des harmonies, des trucs comme ça. Et après, il y a des fois où je fais le mixage et le mastering. D'autres fois où c'est quelqu'un d'autre qui mixe, qui masterise. Et Let Me Live.
Ça, qu'est-ce qui fait
Ah, ça, c'est vraiment son envie à elle, en fait.
Okay.
C'est elle a en fait un cheptel de techniciens avec qui elle bosse.
D'accord.
Donc, par exemple, elle va faire toute la production, donc la partie vraiment création sonore, etc., avec un autre ingé son. Mm-hmm. Mais elle va me dire, j'avais vraiment aimé comme t'avais mixé ce titre-là,
ouais, d'accord.
Donc c'est toi qui fais le mix sur celui-là.
Okay.
Et après, mastering, pareil, je vais lui proposer quelque chose et des fois, elle va me dire, en fait, il y a ce gars-là qui avait masterisé tel truc que j'ai vraiment bien aimé, donc j'aimerais bien qu'on lui envoie pour tester. C'est vraiment une question de goût et de préférence, quoi.
Okay.
Et là, le dernier morceau en date, on avait fait ça, j'avais enregistré sa voix et j'avais fait le mix de la voix et un espèce de mix mastering des instruments qui était déjà quasiment mixé mais qu'il fallait un petit peu refaçonner. Et elle m'a dit, pour ce coup-là, je voudrais qu'on fasse pareil. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait une session voix. Et puis là, je vais mixer l'album, la chanson, dans quelques jours. Et pour revenir sur Let Me Live, c'est une chanson qui a déjà plusieurs années. Mais c'est une chanson que j'aime bien encore maintenant au niveau de la production, justement, du mixage. C'est un son qui me... Voilà, je trouve que... Je suis souvent très critique avec mon boulot. Je suis le premier en réécoutant à me dire « Ah, ça, j'aurais dû faire comme ça, machin et tout. » Et en fait, celle-là, quand je l'écoute à chaque fois, je me dis je trouve qu'il y a une ampleur, un côté un peu aérien qui continue à me plaire.
Okay.
Et voilà, et c'est ce que je disais aussi au gars d'Atomesis que tu as reçu il y a quelques temps. Le dernier album, je l'ai réécouté peut-être 5-6 mois après l'avoir enregistré. Et je l'ai réécouté avec plaisir, en me disant, j'aurais pas changé quelque chose dans le mixage. Et ça, quand j'arrive à ça, c'est
bon signe.
Ouais, c'est bon signe, c'est super soulageant, en fait.
Ouais,
parce que souvent, on réécoute les trucs après, on se dit, oh non, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. J'aurais jamais dû mixer ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, Let Me Live, voilà, c'est une chanson que j'aime bien au niveau du son. Elle continue à me plaire. Et puis, je trouve que c'est une belle chanson. C'est une des plus belles de Morgan, je trouve.
Ok. Et puis, alors, il y en a une autre qui est marquée mix non définitif.
Ouais. Alors, ça, voilà, je t'ai amené ça parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant.
Ok.
C'est Gilles, avec qui on bosse en ce moment sur ses chansons, du coup. Et donc, ça, c'est tout frais. C'est en ce moment dans le studio.
Ok.
Donc, je te l'ai sorti de l'ordi, mais c'est pas encore tout à fait terminé. C'est vraiment une session de travail. Et c'est typique de ça, en fait. Gilles avait cette compo, cette jolie balade un peu à la YouTube. Moi, je trouve que ça fait un peu penser à ça. Mm-hmm. Et il m'a dit, j'aimerais bien l'enregistrer proprement. Donc déjà, il a fait sa guitare proprement, il a fait sa voix proprement. Je lui ai proposé quelques arrangements à la guitare, au violoncelle, quelques percussions, de la basse, etc. Et là, on en est à la phase où, du coup, on a un premier mix qui est à peu près abouti, mais on n'a pas tout finalisé. Donc je pense qu'en réécoutant, on va se dire, ce volume-là, il est un peu trop fort, là, il faut monter la réverb, etc. Donc c'est un travail, quoi. Voilà, c'est un chantier,
ah oui,
on va dire.
Voilà. Okay. Et après il y a Stéphane Clairvoix au fil du temps.
Alors Stéphane, donc il y a deux Stéphane, tu vas voir, là, Stéphane Clairvoix, c'est celui avec lequel je travaille en ce moment. Ouais. On est en train de faire ces vidéos en ce moment, c'est ce que je te disais de cet accompagnement global, tu vois, on s'est connu avec Stéphane il y a un peu plus d'un an maintenant. Il avait ses maquettes. Lui, il joue un petit peu de guitare aussi, donc il avait ses démos, il avait ses idées de mélodie, etc. Et on a travaillé plein de chansons, on en a une dizaine maintenant. Et on en a choisi deux qu'on a menées au bout, c'est-à-dire qu'on a vraiment produit proprement.
D'accord.
Donc on a fait venir l'excellente Laetitia Gondran à la batterie, qui m'a fait des prises de batterie magnifiques là-dessus. On a fait venir d'autres musiciens quand il y avait besoin. On avait, par exemple, sur une autre chanson, on a une violoniste, ambiance un peu folk, trad, qui est venue faire des parties. Il y a une pianiste qui est venue aussi, donc on a fait venir tout ce qu'il fallait pour en faire justement des...
Pour que ça prenne
que ça prenne de l'ampleur et qu'après je l'ai mixé, j'ai masterisé. Et là, on est en train de faire les clips. Et au fil du temps, la chanson qu'on va écouter, c'est un bon exemple de la démo qu'avait Steph tout seul comme ça à la guitare en train de gratouiller à la prod que c'est devenu maintenant avec les cordes, avec la batterie, les guitares électriques, le piano, le violoncelle, enfin tous les arrangements, quoi.
Et puis la dernière, ça sera Stéphane, du coup.
Stéphane, ouais. Alors un autre Stéphane avec qui j'ai bossé, alors c'est un peu le même principe que Stéphane, c'est-à-dire qu'il avait aussi ses maquettes guitare-voix, des fois avec des boîtes à rythme, tout ça, et il m'a demandé aussi, pareil, de réaliser les chansons. Et j'ai des océans parce que déjà j'aime bien la chanson, je trouve qu'elle est assez accrocheuse, les mélodies sont chouettes. Mmh. Il avait des bonnes idées de mélodie et je crois que c'est une des seules chansons sur lesquelles je joue tout. la batterie, la basse, la guitare. Enfin, voilà, c'était aussi pour montrer un exemple de ce que je peux faire un peu au max, quoi. Donc, quand c'est dans mon univers, voilà, j'arrive à peu près à pouvoir produire ça pour quelqu'un, pour l'aider à sortir sa chanson, quoi.
D'accord, on va écouter tout ça.
Allez.
On va se dire au revoir.
Bah ouais, voilà. Ça marche.
Merci d'être venu.
Merci de m'avoir reçu.
Et puis on mettra toutes les informations pour que justement les artistes puissent te contacter sur le site Fréquence Mistral.
Et merci de m'avoir reçu. Merci bien.
À très bientôt.
Au revoir. Glow.
at your eyes, the world begins to shine. When you see my soul, you know what's deep inside. Now I know you're the one. When I close my eyes, I see it's only you. Every road I take, it leads me back to you. Now I know you're the one I've been waiting for, the one I can give all my heart away. You're the thing that's ever come my way. When I hold you in, the world just fades away. Every doubt I had is gone, you made me stay. Now I know you're the one I've been waiting for, the one I can give all my heart away. You're the thing that's ever come my way. You're the one I was looking for. Now I know I won't need anymore. Every breath I take is yours. You're the one.
Sans pouvoir tout changer, tout refaire. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle s'apprend mot à mot. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle grandira même trop. Elle a cheminée, remplie de culpabilité, pensant devoir être une autre pour être acceptée. Cherchée pendant des années à décortiquer les autres, sans même voir qu'on est soi-même quelqu'un d'autre. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle s'apprend mot à mot. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle grandira même trop. Sur sa souffrance, elle a fini par poser des mots. Elle a rassemblé de sa vie des copeaux. Puis elle a compris que la vie n'est pas un combat, qu'il faut apprendre à comprendre pas à pas. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle s'apprend mot à mot. Au fil du temps, au fil
commence à guérir de ses maux. Elle enracine tel un sarment son désir d'aller plus haut. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle s'apprend mot à mot. Au fil du temps, au fil de l'eau, elle grandira même trop.
Le ciel reflète les vagues de nos souffrances intimes.